Voilà, comme ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Che fai, gradisci?
Ma stato fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Come fa che dici?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cinémascope, le magazine de cinéma en Sud-Ardèche. Alors aujourd'hui, nous allons parler des films 16 ans et Les Bonnes Étoiles, et peut-être Close aussi avec Didier. Et puis, alors comment passer à côté, on va parler de Avatar, La Voix de l'eau avec René.
Bonjour.
Mais avant, on reçoit Christophe Machy, directeur du cinéma Le Navire à Aubenas.
Bonjour.
Bonjour Christophe, pour faire un petit bilan de l'année 2022 et puis évoquer un peu les perspectives de 2023. Alors Christophe, au niveau national, les Français sont retournés au cinéma plus que dans d'autres pays.
Plus que dans d'autres pays, hein, puisque la France est largement en tête des pays européens. Je crois qu'en Espagne et en Italie, ils sont à plus de moins 50 ou moins 60%. Ouais. On finit en France à 152 millions d'entrées. Je crois qu'en Espagne, ils sont à 68 et en Italie à 70. Enfin voilà, on est largement en tête de ce palmarès-là.
Ce palmarès, donc il reste, il y a encore à peu près, il manque toujours 26-27, je lisais 27% des spectateurs dans les salles par rapport à la période d'avant Covid.
Avant le Covid, en moyenne, on était à 200 millions d'entrées. Voilà, c'était à peu près des fois 210, des fois 198, mais on va dire 200 millions, c'était un peu le maître étalon des années cinématographiques.
Et alors, quelle est la situation en Ardèche? Est-ce que ça recoupe un petit peu la tendance au niveau national?
Alors, oui, en général, on est à peu près dans les chiffres nationaux. Là, on fait un tout petit peu mieux, puisque au navire, on va finir l'année avec une fréquentation à moins 17%. Alors, je calcule ce chiffre pas par rapport à l'année 2020 ou 2021, qui étaient des années un peu tronquées, puisque les salles ont été partiellement fermées ou avec des contraintes de passe sanitaire. Voilà. J'ai fait un calcul des années 2017, 2018, 2019. Une moyenne de ce chiffre-là, et c'est par rapport à ça que je me compare. Donc moins 17%, oui, c'est plutôt pas mal, parce que je crois qu'en France, on est au-delà des 25%, des moins 25%.
27%.
Donc c'est quand même satisfaisant, même si c'est pas complètement rassurant, c'est quand même satisfaisant, et surtout encourageant pour l'avenir, parce que l'année dernière, c'était moins 20, cette année moins 17, bon, ben, on a quand même espoir que dans les un an, deux ans au pire, on ait récupéré une fréquentation à peu près comparable à ce qu'on connaissait avant.
Et à quoi tient justement ce retour un petit peu au cinéma? Est-ce que ça tient à des habitudes qui reviennent? Est-ce que ça tient à certaines têtes d'affiche, à certains films? Alors
certaines habitudes qui reviennent, sûrement. Oui, ça on a constaté, on avait constaté ça à la reprise des salles en mai 2021. Il y avait une catégorie du public qui venait plus, et notamment le public régulier, le public RSC, qui était un peu inquiet de se retrouver dans des lieux fermés et confinés. Ça a duré très longtemps, et moi j'ai perçu vraiment le changement pendant les rencontres des cinémas d'Europe de cette année, où ce public-là justement est revenu en masse, puisque c'est quasiment la meilleure année que les rencontres ont fait depuis la création de la manifestation.
À peu près
25 000 entrées. Oui. Sur le navire, on était à 17 000, rien que sur le navire, donc oui, c'était assez exceptionnel. Et c'est ce public-là, justement, qui avait vraiment du mal à revenir dans les salles. Donc lui, il est revenu. Le public plus jeune, il venait, il a continué de venir, mais quand il y avait un film qui l'intéressait, donc de façon un peu irrégulière. Et donc voilà, ça a été un peu la bonne surprise de cette fin d'année, et sans doute ce qui explique aussi la baisse moins forte ici que dans d'autres établissements.
Donc la revenue de ce public
la
arrêté.
Revenue de ce public. Et puis, il faut quand même dire que on avait quand même une situation un peu particulière sur Aubenas, puisque bon an, mal an, on arrivait à faire 150, 180 000 entrées. Le plus gros chiffre qu'on a fait, c'était en 2019. Donc c'était dans le nouveau cinéma avec 188 000 spectateurs. Bon, je rappelle quand même, le bassin de population d'Aubenas, c'est 20 000 habitants. Donc bon, c'était quand même des chiffres importants. Et ça, bon, bah, c'est dû au travail de terrain qui a été fait depuis 40 ans par les créateurs du cinéma, l'ancien navire, par Art des Chimages, enfin voilà, toute cette espèce de pôle culturel, par Fréquence 7 aussi, voilà, il y a un pôle culturel sur l'art des choix qui existe depuis longtemps, et puis ben voilà, on en récolte les fruits un peu maintenant, quoi.
Est-ce qu'on retrouve le même profil, pardon, des films qui ont marché au niveau national et ici dans les...
Oui, alors ça complètement. Il n'y a pas de spécificité albenacienne, si ce n'est pendant les rencontres où là, on se retrouve avec des films qui font leur meilleur résultat France. C'est déjà arrivé, je pense à des tout petits films comme PNR ou Le Serment de Pamphire, où on a fait des... Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est à 400-500 entrées en trois séances, ou même le film de Noémie Milowski, sur lequel on a réalisé plus de 500 entrées La Grande Magie en deux séances, trois si on compte la double séance qu'il y a eu le jour de l'inauguration des rencontres. Enfin, c'est exceptionnel. Elle était surprise elle-même, Noémie, du résultat de ça. Donc ça, mis à part ces épiphénomènes dus au festival, non, on est dans la moyenne. Voilà, le plus gros succès de l'année, c'est Avatar comme partout. Après, c'est Top Gun comme partout. Enfin, voilà.
Black Panther, d'accord. En 2023, alors les professionnels semblent... Enfin, se veulent optimistes avec pas mal de films qui devraient booster les salles. Comment
alors,
ça s'annonce ?
Il y a un peu de tout, effectivement. Il y a pas mal de films qui sont attendus plutôt... Alors là, je vais parler plutôt des blockbusters avec Astérix Obélix, la version Guillaume Canet qui sort en février. Après, il y a les Trois Mousquetaires qui est vraiment le blockbuster français qui a été réalisé cette année avec Cassel, avec Pio Marmaille et Romain Duris. Enfin, vraiment la grosse machine. Tout ce que fait tous les acteurs bankable, on va dire. Garçon ou fille, hein, parce qu'il y a aussi Lina Koudry ou Eva Green qui font partie de ce casting. Le film sera en deux parties, une qui sort en avril, une qui sort en décembre. Puis après, chez les Américains, il y a du Marvel, il y a des choses comme ça. Il y a le nouvel Indiana Jones, il y a le Dune numéro 2. Alors, c'est des franchises, hein, en parlant de numéro, là. Je vous parle pas de Fast and Furious qui en a son 10e épisode qui sortira aussi à 2023. Bon, ça fait partie du cinéma. Oui, il y a Barbie qui doit sortir aussi. Alors, j'ai pas d'infos sur ce film, sinon quelques photos que j'ai vues à droite, à gauche. Bon, on verra bien. Il y a Babylone de Chazelle qui sort fin janvier, oui, c'est ça, qui a l'air assez intéressant aussi. Une version un peu déjantée de Chantons sous la pluie, qui se passe en tout cas à la même époque et sur le même sujet. Voilà. Et puis pour les films français, enfin plutôt les films à réessayer, ouais, il va y avoir le Spielberg, Les Fablesman, qui raconte son enfance, son adolescence, voilà, qui est un film, bien que ce soit Spielberg, mais qui est un film un peu plus confidentiel. Voilà, on sort bientôt les Cadors aussi, qui est un film à réessayer, qui va être très intéressant. Les Cyclades aussi, qui sortira au mois de février. Voilà. Après, sur la réessayer, c'est dur d'être prédictif, parce que souvent, il y a des succès qu'on n'attendait pas. Donc, voilà, mais je ne suis pas inquiet là-dessus. Il y a toujours 15 ou 20 films qui sortent toutes les semaines depuis la reprise, et ça va continuer à ce rythme-là en 2023.
Ok, plutôt optimiste.
Sur les sorties de films, en tout cas, oui.
Ouais. Des coups de cœur ?
Ah, des coups de cœur, là ça j'avais pas prévu cette question-là, la question du coup de cœur, bah, les Cyclades qu'on sort bientôt, que j'ai pu voir un peu en avance, que j'ai regardé un peu pendant les vacances de Noël, là, où j'avais pas mal de boulot par ailleurs, et où ça a été un petit peu difficile de me mettre devant, et puis finalement, voilà, c'est un film très touchant avec Laure Calamy, une histoire d'amitié féminine, mais c'est au-delà de ça, je vous laisse le découvrir, on le sort bientôt, c'est vraiment un très très beau film, voilà. Parce que le dernier coup de cœur que j'ai eu, franc, c'était Les Cyclades, qui sera sur les écrans du navire en février.
Super, merci beaucoup Christophe.
De rien.
Eh bien, on va commencer avec René. Puisqu'on vient de parler d'Avatar, alors Avatar, il a fait combien, plus de presque 9 millions d'entrées en France.
Il a passé les 9 millions, ouais, ça y est.
9 millions d'entrées en France.
Juste sur Aubenas, on a dépassé les 10 000 entrées sur ce film-là en 3 semaines.
Alors, 10 000, on rappelle, ouais, sur un bassin de 20 000.
Ouais. À ma connaissance, le record qu'on avait avant, c'était 12 000 sur Bienvenue chez les Ch'tis quand on était au Palace. Mais ça avait été sur toute la longueur du film, donc sur, ouais, plusieurs mois. Ouais. Là, on a fait 10 000 en 3 semaines.
Et combien de semaines à venir ?
Il reste encore, on va le garder de toute façon jusqu'à ce que les gens n'en veulent plus. Donc.
Avatar, le monde de l'eau, on en parle avec René, donc film de James Cameron, 13 ans après le premier Avatar. Eh ben, on peut tout de suite se passer une petite bande-annonce.
Qu'est-ce qui t'amène chez nous ?
Je veux mettre ma famille en sécurité.
Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages.
Suis-nous, garçon de la forêt!
Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture.
On y va!
Respirez, respirez.
Un alien, c'est tout ce qu'il voit.
Je te vois.
Si je suis un guerrier, je suis là pour me battre.
Protéger notre peuple.
Finissons-en.
Avatar, le monde de l'eau. Alors, René, est-ce que tu as vibré dans cette expérience cinématographique ?
Jusqu'à un certain point, mais je dis jusqu'à un certain point, c'est probablement lié à mon âge. Mais comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce, c'est un film plein de bruit et de fureur. Alors, on est là plus d'une décennie après les affrontements sur Pandora, cette planète hors du système solaire, qui avait mis aux prises dans Avatar 1 une expédition de terriens et les Omaticaya, une peuplade d'humanoïdes dont Jacques Sully assume désormais le rôle de chef avec sa compagne, Neytiri. Ils s'occupent de leur famille avec de nombreux enfants dans une ambiance idyllique. Lorsqu'une nouvelle expédition d'humains revient en force sur Pandora, leur mission étant de préparer la planète à devenir une nouvelle terre pour accueillir l'exode des humains. Jake, je ne sais pas comment le prononcer à l'anglais, disons Jake et Neytiri et les Omaticaya sont les premiers à s'opposer à ces envahisseurs terriens, mais ces humains-là ont également dans leur rang une escouade de recombinés d'avatars particulièrement dangereux. Et, préférant mettre sa famille à l'abri, Jake renonce à son rôle de chef et emmène les siens jusque chez les Metkayinya, excusez-moi pour la prononciation, une autre peuplade humanoïde, un clan de Navi qui vivent sur la côte est de Pandora. La famille Sully se voit ainsi contrainte de s'intégrer à une nouvelle culture et ils vont devoir se défendre contre les envahisseurs humains. Voilà. Alors, ce film, on l'a dit, est un énorme succès commercial. Il est en passe de battre tous les records au box-office, au niveau des entrées, sans parler de la carrière qu'il ne manquera pas de faire sur les petits écrans. C'est donc une grosse réussite financière et, bonne nouvelle, c'est un film qui remplit les salles de nos cinémas et on ne peut que s'en réjouir par les temps qui courent. Alors, tout dans ce film a été conçu et réalisé pour en mettre plein la vue. Je ne dis pas ça au sens négatif. C'est un film impressionnant. Les décors sont très spectaculaires et je trouve très convaincant. C'est absolument hallucinant de voir comment le cinéma, avec la technologie, à l'aide de la technologie, arrive à recréer des univers. On s'y croirait littéralement. L'effet de réel est parfait. Alors, les humanoïdes aussi sont très convaincants, à la fois très humains, au bon sens du terme, beaucoup plus humains que les humains d'ailleurs, avec une sensibilité, une douceur. Mais en même temps, ils ont quelque chose d'animal, et là aussi au bon sens du terme, leur taille, ils sont très grands, ils ont une longue queue, la couleur de leur peau, leur agilité, le fait qu'ils vivent en symbiose avec la nature. Il y a quelque chose de nostalgique là dans ces personnages, une espèce une espèce d'humanité perdue que eux ont conservée. Tout ça est très à propos. Il ne faut pas oublier le bestiaire. Il y a un bestiaire tout à fait abondant, toute une ménagerie animale. Et là, l'imagination des créateurs du film a fonctionné à deux niveaux. Certains animaux ressemblent à des animaux qu'on a l'habitude, sinon, de voir dans nos campagnes, au moins sur les écrans, comme les tulkuns, qui sont des espèces de baleines un peu transformées. Et on a toute une population de volatiles inspirés de ce que l'on sait ou croit savoir de la préhistoire et qui sont utilisés là comme animaux de monture. Ils sont montés à cheval, si j'ose dire, ce qui donne au film d'ailleurs une dimension un peu western. Tout ça, décor, personnages, bestiaires, plus l'armada technologique des terriens est très convaincant et digne des meilleurs films de science-fiction. En ce qui concerne la thématique, c'est incontestablement un film qui a une dimension satirique, qui d'ailleurs s'inscrit dans le film peut-être un peu lourdement, mais elle est méritoire quand même.
Une dimension satirique.
Oui, 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 tout à fait. Les terriens qui débarquent sur cette planète Pandora sont d'authentiques colonisateurs. Ils sont brutaux, ils sont méprisants pour la culture de ceux qu'ils envahissent. Ils détruisent tout sur leur passage, ils incendient tout, ils avancent avec des bulldozers. Et on sent là que Cameron, James de son prénom, je crois, a voulu donner à son film une dimension écologiste, appuyée, et c'est certainement une des qualités du film, même si, encore une fois, c'est peut-être un peu lourd parfois. Mais incontestablement, c'est un film qui s'en prend au passé colonisateur, enfin, colonisation qui continue d'une certaine façon dans les sociétés occidentales, quand on les voit exploiter les ressources de la Terre entière. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas un film qui deviendra un grand classique du cinéma au sens film du patrimoine, au sens où l'entendent peut-être les cinéphiles. Mais les films n'ont pas tous vocation à devenir, à connaître ce destin.
Et pourquoi pas, d'ailleurs.
Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est mon point de vue, hein, c'est une analyse qui m'est personnelle. C'est un film qui est assez long, dure 3h20. Certaines séquences, à mon avis, auraient pu être un peu écourtées, mais bon, là aussi, c'est une affaire de point de vue. Je pense en particulier aux scènes où la famille de Jack Sully essaie de s'accoutumer aux mœurs des Mécaïnéa. Et cette séquence dure vraiment longtemps. On a un peu l'impression que parfois, Cameron se fait plaisir. Il y a des gens qui s'écoutent parler, il y a peut-être des metteurs en scène qui se regardent filmer. Il y a un petit peu ce côté-là, mais bon, après tout, ça va, ce n'est rien de gravissime. Alors, quelque chose qui m'a manqué, c'est l'absence d'humour. Mais ça rejoint un peu ce que je viens de dire, quand je parle de se prendre au sérieux. J'ai pensé à ce titre, on l'a mentionné d'ailleurs, puisqu'il y en a un qui va sortir, au film Indiana Jones, qui était aussi un film extrêmement spectaculaire, mais qui était bourré d'humour. Il y avait sans arrêt un retour sur soi humoristique. Et là, non, il n'y a rien de tel. Bon, c'est comme ça. Alors, problème des personnages humanoïdes, mais là, c'est un problème incontournable. Ils sont très réussis plastiquement. Il y a eu un gros travail d'imagination, mais leurs visages sont tellement grimés que leur jeu reste limité malgré effectivement certains à côté, leurs yeux qui s'éclairent, leurs grands yeux qui sont assez évocateurs. Mais enfin, l'identification a un peu de mal à se faire avec le spectateur à ce niveau. Enfin, le scénario, bon, il est passablement banal, mais les scénarios des films d'action sont rarement, débordent rarement d'imagination, au sens fort du terme. D'un côté, on a les bons, de l'autre côté, on a les méchants, les bons semblent condamnés, mais, enfin, vous verrez si vous allez voir le film. Voilà, au bout du compte, ce film est un très bel objet, très divertissant, et par les temps qui courent, avec les problèmes qui se posent dans notre pauvre monde, on a peut-être besoin de se divertir un peu, n'en déplaise à Blaise Pascal. Et pour ajouter, pour terminer, je pense que ce film plaira tout particulièrement. Christophe nous le disait avant le début de l'émission, ce film plaira tout particulièrement aux adolescents, mais aussi aux adultes, et tu l'as dit, Christophe. Et cela ne trompe pas, les scènes d'action très spectaculaires sont là pour les séduire en tout premier lieu. D'ailleurs, contrairement à Avatar 1, que j'ai préféré d'ailleurs, où les adultes étaient au premier plan avec Avatar 2, Avatar la voix de l'eau, ce sont les adolescents qu'on voit le plus, qui sont véritablement au centre de ce film, qui fait du bien au cinéma et qui, je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller voir pour une tranche de bonne humeur et de divertissement agréable.
De bonne humeur, mais sans humour.
Sans humour, voilà, ça c'est un peu dommage. Mais peut-être que ça ne s'inscrivait pas dans l'économie générale du film. Parce que, encore une fois, par le biais de cette satire, c'est un film qui est quand même grave, en pleine de gravité, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, alors que dans Indiana Jones, on sait bien que voilà, qu'il ne va rien advenir, puisque c'est un film, Indiana Jones, c'est un film qui est tourné vers le passé. Alors que là, on est en 2154, ça change tout dans la perspective, évidemment. On peut être optimiste en ce qui concerne le passé, parce qu'on sait ce qui est arrivé. Ce qui concerne l'avenir, quand on voit l'état de la planète, c'est autre chose. Voilà.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est peut-être. Alors, j'ai entendu là qu'il y avait une méta-analyse qui annonçait en fait le déclin de ce qu'on appelle l'expérience de nature, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins collectivement et dans tous les continents, sur tous les continents, et c'est ça qui est pour la première fois. Intéressant, qui se voit pour la première fois, c'est-à-dire que même en Afrique, même en Asie, etc., on est de moins en moins en interaction avec la nature, et ça tient aussi par le fait que beaucoup de films et de représentations, de séries, etc., se passent de moins en moins aussi dans un contexte de nature. Et je me dis qu'un film comme ça, qui peut justement toucher, et là on est vraiment dans le côté sensoriel, émotionnel, enfin je dis ça, comment parler d'un film qu'on n'a pas vu ? Je n'ai pas encore vu Avatar 2, mais ce qu'on m'en a dit, c'est vraiment la force de ce film, c'est non pas le message, mais c'est d'éprouver une familiarité, d'être en sympathie avec d'autres peuples ou avec les animaux. Et je me disais justement, en écoutant cette méta-analyse, peut-être des films tels que celui-ci, tels que Avatar la voix de l'eau, peut justement permettre de renouer, d'être en interaction.
C'est très heureux que tu dises ça, je regrette de ne pas l'avoir fait moi-même, mais c'est vraiment, le film aborde ce problème de façon très nette. Les humanoïdes en question sont effectivement en symbiose avec la nature, et le film insiste là-dessus, c'est certainement une de ses qualités, je sais bien que tu le rappelles.
Didier Christophe, sur ce film ? Non ?
Non, moi j'ai rien à ajouter à ce que dit René, effectivement, c'est complètement vrai. Il n'y a pas d'humour, mais même si Indiana Jones passait dans le passé, c'est un film des années 80, là c'est un film des années 2020, on n'a pas envie de rire aujourd'hui, voilà. Mais c'est extrêmement plaisant et on passe un très très bon moment. Et on peut se rendre compte, quand on est à la caisse, comme je l'ai été beaucoup ces derniers temps, que c'est vraiment transgénérationnel et on voit beaucoup de seniors qui viennent voir le film. Et ça, c'est une super surprise.
Super. Moi, je n'ai pas vu, mais je rebondirai sur ce que tu disais sur la colonisation. Dans Avatar 1, déjà, on avait ça. Et en fait, moi, je ne l'ai pas encore vu, Avatar 2, mais dans le premier, pour moi, c'était un western. C'était le renouvellement des cow-boys et des indiens sur une autre planète.
Ouais, ouais. Inversé, parce que... Oui.
Alors merci René pour Avatar, la voix de l'eau, qu'on peut voir à peu près dans toutes les salles d'Ardèche, pas encore aux hier mais bientôt, donc à Vals, Les Vences, Ruons, donc Ciné 7 de Ruons, au Regain du Teil, au Navire évidemment à Aubenas, et même à Barjac. voilà, à voir dans toutes les salles d'Ardèche. On va passer maintenant à un autre film, autre ambiance, 16 ans, de Philippe Lioret, le réalisateur qui avait fait Welcome en 2009. Allons-y.
Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça.
Non, c'est pas les gens que je regarde. C'est Nora, ton prénom, c'est ça ? Léo, moi.
Tu serais pas Bélier par hasard ?
Pourquoi ?
Parce que tu lâches pas.
Tu sais qui c'est, lui ? C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré.
Putain, mais t'as fait quoi encore ?
Tu traînes plus avec lui, point final.
Paraît que t'as viré un type à l'hyper ?
Parce qu'il a piqué une bouteille.
Et on vire quelqu'un pour ça ?
C'était qui les autres ? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça ?
Je me suis pas vengé, je vous dis. Léo ?
Bon, ok, 100 balles.
Arrête, ça va pas ou quoi ?
À ton âge, on fait pas ça. Une fille, ça fait pas ça.
C'est la honte, ça. Jamais je te le pardonnerai, ça.
Mon père sait que je suis allée chez toi. Il faut plus qu'on nous voit ensemble, je t'expliquerai.
C'est toi qui la surveille ?
Moi, je te dis que tu me pètes les couilles, ça te va comme ça ?
On peut pas te faire confiance, tu sors plus. Parce que tu te prends pour une femme, tu dois en être une maintenant.
Putain, Léo, si je quitte le lycée, je remettrai plus les pieds.
J'ai rendez-vous au centre d'action sociale jeudi soir. Vous voulez pas venir avec moi ? Faut pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. C'est moi, j'y retournerai plus.
T'as assez fait de mal comme ça.
Lâche-moi ! Mais arrête !
Vous avez pas été amoureux, c'est dans vous.
Ouais, vous n'avez pas été amoureux, vous, à l'âge de 16 ans. Alors,
Guillaume... C'est dommage.
Qu'as-tu pensé de cette version ?
Beaucoup de bien, beaucoup de bien. C'est un bon, Philippe Lioret, tu l'as dit, on l'a surtout connu à travers Welcome, mais c'est vraiment quelqu'un qui commence à faire véritablement partie du paysage cinématographique français et qui, là, très curieusement, en fait, nous présente une sorte de relecture de Roméo et Juliette. Donc, Roméo et Juliette, ici, s'appellent Nora et Léo. Ils ont 15 ans et demi et 16 ans, d'où le titre. Ils se rencontrent dans leur lycée et c'est un coup de foudre immédiat. Malheureusement, un petit incident qui est la disparition, donc on peut le dire puisqu'on l'a entendu dans le film annonce, la disparition d'une bouteille de vin, une bouteille de vin de prix quand même, dans un supermarché où le frère de Nora est manutentionnaire et où le père de Léo est directeur. Donc ça va mettre le feu aux poudres, et d'un petit incident qui à la base est quand même pas quelque chose de complètement dramatique, séquence après séquence, on va avoir une tension qui va monter de plus en plus et dont ces deux jeunes vont être les victimes principales. Donc c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi un regard sur notre temps en France aujourd'hui, dans une banlieue de la région parisienne qui n'est ni la pire ni la meilleure, où on a vraiment cette vision, moi j'ai trouvé, d'une France actuelle complètement fracturée. Donc fracturée socialement, mais aussi, et on le constate ça partout, fracturée intellectuellement. Puisque ça va ensemble maintenant, les rapports ne sont plus les mêmes et les gens n'arrivent plus à se parler et n'arrivent plus à se comprendre. Donc le film monte, en termes de mise en scène c'est très nerveux et il y a vraiment une tension comme un thriller presque, c'est-à-dire que le film est relativement court, je crois il est autour de 1h30, 1h40, mais vraiment on est accroché au fauteuil et on fonctionne très très fort, on tremble pour ces deux jeunes, mais surtout on assiste à cette espèce de radiographie d'une France d'aujourd'hui où les choses ne disent pas forcément leur nom, cette sorte de racisme latent là qui plane avec les mots d'ordre des partis qu'on connaît bien qui m'a vraiment beaucoup inquiété. Donc voilà, toute une mécanique qui se met en branle autour de cette petite histoire, enfin de cette très belle histoire d'amour, mais qui en fait ne devrait déranger personne et qui va être le point central de la haine de ces deux familles.
On a envie d'aller le voir.
Allez-y, vous ne le regretterez pas. Non, c'est un excellent film, c'est un des premiers films français de l'année. Hein. C'est, et on peut se dire que ça commence bien cinématographiquement parlant.
Rappelle le nom de metteur en scène.
Philippe Lioré.
16 ans de Philippe Lioré, donc, qui est à voir au navire, par exemple, aujourd'hui ou demain à 17h30, ou dimanche à 14h15. Je ne l'ai pas repéré dans les autres, sur les autres écrans d'Ardèche.
Non, je crois qu'en sortie nationale, on est les seuls à le diffuser.
D'accord. Donc ne manquez pas. Ouais, ne manquez pas au navire. Donc aujourd'hui, demain 17h30, dimanche 14h15, et il y a encore d'autres horaires. Les bonnes étoiles.
뭐 한마디로 말하자면은 선이라고 해야 되나?
뭐 하는 거야 지금?
아니 왜 우리 가족 여행을 방해하고 그래?
나 다 알아. 가족 아닌 거. 우성이 팔려고 그러잖아.
너 좀 더 찾아보면 더 좋은 조건에 상대가 있을 텐데. 네.
뭐야? 눈썹이 왜 이래?
반드시 현행범으로 체포할 거니까.
저 다른 나라지. 야, 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 야,
야, 야, 야, 야, 우성아, 우리랑 이제 행복해지자꾸나, 응?
《Les bonnes étoiles de Hirokazu Koreeda. Alors, on l'entend dans cette bande-annonce, on entend une sorte de road movie tout en poésie. Alors, est-ce que c'est un peu un road movie tout en poésie ou est-ce que c'est
aussi,
plutôt...
Aussi, pas que, mais aussi, donc Koreeda est un réalisateur japonais, même si cette fois-ci, ce film est coréen, il est allé tourner entre Séoul et Busan. Et pour moi, ce réalisateur est un bienfaiteur de l'humanité, c'est un humaniste, et c'est quelqu'un qui... Alors, je ne vais pas dire qu'il fait toujours le même film, mais qui traite pratiquement toujours de la même thématique, la famille. Mais la famille, ça peut être au sens très très large. Donc on l'a connu en France, il y a déjà un bout de temps maintenant, je crois que c'était même, je dirais peut-être avant les années 2000, avec un film qui s'appelait Nobody Knows, sur l'abandon d'enfants par une mère un peu inconséquente, qui a vraiment été un choc cinématographique. Et depuis, il revient tous les 2-3 ans avec un film où des vraies familles, ou comme ici, des familles de hasard. Donc j'ai appris quelque chose déjà au début de ce film, c'est qu'en Corée existe des baby box. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc lorsque naît un enfant non désiré, on va le mettre dans une boîte à bébé. Donc il y a une caméra vidéo qui signale ça à la structure qui est derrière, et on récupère ce nourrisson qu'on va placer dans un orphelinat. Et là, quand le film commence, travaille plus ou moins en bénévole dans cette structure, deux très gentils pieds nickelés qui de temps en temps récupèrent un bébé et qui se disent, en fait, grandir dans un orphelinat, c'est pas extraordinaire, donc autant lui trouver une vraie famille. Puis en même temps, ils le vendent, donc ils récupèrent un petit peu de sous. Et donc, ils vont partir en quête de la famille idéale pour ce petit nourrisson. Et en cours de chemin, va se joindre à ce trio la mère, donc qui est une jeune prostituée, qui sait plus trop où elle en est, et un môme d'une dizaine d'années qui s'est enfui d'un orphelinat. Et c'est là que Road Movie commence. Donc ils sont suivis par deux femmes flics qui espèrent les prendre en flagrant délit. Bon, ça marche jamais, ni d'un côté ni de l'autre. Et effectivement, ça se transforme en Road Movie. Et t'as une espèce de cellule familiale comme ça qui se crée autour de ce nourrisson avec ces quatre autres personnes. C'est absolument doux, tendre, drôle. Il y a énormément d'humour et il y a quelques séquences qui sont un peu en dehors du temps, en dehors de l'histoire. Donc juste une comme ça pour la situer, pour que les spectateurs qui iront le voir peut-être la repèrent. C'est une sorte de déclaration d'amour très pudique, tout en haut d'une grande route dans une fête foraine. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que ce film, qui traite de sujets graves quand même, hein, l'abandon, l'adoption, etc., mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse, en font un film très très léger. Donc le film a eu le prix d'interprétation masculine à Cannes au dernier festival. Alors je le prononce pas forcément bien.
C'est
Song Kang-ho, c'est l'acteur principal de Parasite, qui avait fait un Palme d'Or et qui avait fait un énorme succès à l'époque. Donc moi, je recommande vraiment ce début d'année où, effectivement, on le disait en tout début, je crois, d'émission, l'époque n'est pas la plus drôle qu'on ait vécue. Je trouve que c'est un film qui fait vraiment, vraiment du bien.
Les bonnes étoiles de Kore-eda.
Tu l'as vu aussi, Christophe?
J'ai pas encore vu celui-là.
À voir au Navire, donc cet après-midi à 17h30, dimanche à 17h15 et plus tard encore, ou au Teil, au cinéma Le Regain, ce soir ou dimanche à 20h30. On a quelques secondes à peine pour évoquer le dernier film, Close.
Très rapidement. Donc Close, c'est le second film de Lucas Daun, qui est un jeune réalisateur belge, qui nous avait proposé il y a pas très longtemps, trois ans peut-être, un film qui s'appelait Girl, qui a rencontré un certain succès, en tout cas dans le public RSA, qui racontait l'histoire d'une jeune fille née dans un corps de garçon et qui faisait tout pour devenir une danseuse étoile, qui était vraiment une réussite. Voilà, et Close est également une réussite. Donc c'est l'histoire de deux jeunes préados, ils ont 13 ans, Léo et Rémi, qui sont plus qu'amis, hein, ils se disent frères. Mais au lycée, au collège, leur promiscuité va créer une sorte de quelque chose qui est pas très très clair, quoi. Est-ce que vous êtes ensemble, on leur dit et tout. Et il y en a un qui va s'éloigner un peu, s'inscrire dans une équipe de hockey parce que c'est très viril, etc. Et le second rentre dans quelque chose. Bon, on a tous connu ça un petit peu, je crois, à l'adolescence ou à la préadolescence. D'avoir un super copain, une super amie. Et puis de temps en temps, on est un peu jaloux. C'est entre le sentiment d'amitié très fort et le sentiment amoureux. Et ce film qui démarre, les parents sont des horticulteurs, donc ce film qui démarre dans les fleurs, l'été, c'est magnifique et tout. Petit à petit, vire au drame. C'est très réussi. C'est un mélodrame. C'est très réussi. Et les deux mômes, alors je me souviens plus de leur nom, mais en tout cas sont je pense peut-être des acteurs à suivre s'ils persistent dans cette voie, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires tous les deux.
Il a eu le Grand Prix du jury à Cannes, c'est ça hein,
et Lucas Daun est vraiment un grand grand réalisateur en devenir, il faut vraiment suivre son travail de très près.
Alors on va aller voir Close, donc j'ai pas les... il est disponible sur plusieurs écrans au Navire déjà.
Il doit y avoir au moins une séance par jour pendant la semaine qui a commencé mercredi.
Ok, merci à vous. Juste pour l'agenda, un moment, un film à conseiller qui est un film surprise. Mardi au Teil, mardi 10 janvier à 20h30, puisque, alors j'aime bien cette initiative de l'Association des cinémas d'art et essai, qui chaque mois vous propose une avant-première coup de cœur. Donc ce sera un film surprise à 20h30, mardi 10 à Tueil. Et puis, ben voilà, c'est ainsi que ça se termine. J'aimerais juste terminer cette émission avec une petite pensée pour Olivier, qui n'est pas là aujourd'hui et qui, on l'espère, reviendra très vite pour nous parler des films avec les nombreux hors-pistes qui le caractérisent.
On pense à lui.
Voilà. Une pensée, Olivier, et à bientôt. Nous, on se retrouve donc pour Cinémascope vendredi prochain.
Thank you.